France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les mythes qu'on racontait chez soi lors d'un banquet ou pendant de grandes fêtes somptueuses rassemblant des foules étaient un chemin. Les mythes faisaient voyager. Ils emmenaient les gens très loin de leur vie quotidienne, de leur travail, de la régularité des jours et des nuits. On s'en allait. En les écoutant, on laissait derrière soi tout ce qui est ordinaire. Grâce aux mythes, on avait et on a toujours la joie de changer de monde, de fréquenter des êtres étonnants, immortels, plus grands, plus beaux que nature. C'était parfois et même souvent des êtres monstrueux, féroces et sanguinaires. Mais il arrivait aussi que ces brutes soient magnifiques et généreuses. Tout, le long de ces chemins de parole, devenait possible. Et tout cela, sans aucune considération de ce qui est vraisemblable, normal, connu. On était libre.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Les mythes, c'était joyeux, c'était la fête. On buvait, on mangeait. Il y avait de la danse, de la musique. Et la voix des chanteurs faisait vivre ces histoires étonnantes. Tout cela était offert à un dieu qui devait se réjouir de voir tout le bonheur humain qu'il provoquait.
Jean-Pierre Vernant, helléniste.
Le grec a le sentiment très profond qu'au-dessus de lui, il y a un univers de puissances qui sont à la fois immortelles, qui ne connaissent pas toutes les limitations de la condition humaine, que nous sentons notre dépendance. Nous sommes des êtres limités, finis et dépendants. Nous sentons que nous avons, par le fait même de notre existence bornée, entre la naissance et la mort, le fait qu'il faut qu'il y ait des parents qui nous aient engendrés, qu'on n'est pas là d'emblée, par évidence, par nature. Alors, il y a un sentiment de dette à l'égard du monde, et spécialement des dieux.
Ces grandes fêtes où on chantait les déesses, les dieux, les hommes et les femmes du temps jadis, étaient elles-mêmes un voyage. Il fallait quitter sa région pendant quelques jours, prendre son bateau, et se retrouver dans un lieu comme l'île de Délos, île rocheuse, entièrement consacrée au culte d'Apollon. C'est là que le dieu était né, au pied d'un palmier, après une longue errance de Leto, sa mère, qui cherchait un lieu accueillant pour accoucher. Ce fut Délos.
Mais c'est à Délos, Phoïbos Apollon, que tu donnes le plus de plaisir à ton cœur. Là, les Ioniens aux robes traînantes se sont rassemblés, avec leurs enfants et leurs dignes épouses, par le combat de boxe, par la danse et par le chant, faisant mémoire de toi. Ils te donnent du plaisir quand ils organisent le concours. Ils diraient qu'ils sont immortels et sans vieillesse pour toujours, celui qui à ce moment surviendrait quand les Ioniens sont rassemblés. Car il verrait le charme de tous et ferait plaisir à son cœur à contempler les hommes et les femmes aux belles ceintures, et les vifs bateaux et leurs innombrables trésors.
Un poème de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ décrit ce festival dédié à Apollon. S'y mêlaient le luxe, la poésie et le sport. Les corps et les esprits étaient également comblés. Pendant la fête, les humains sont comme des dieux. Ils sont transformés, ils ne vieillissent pas, la mort les ignore. Dans une harmonie parfaite, le dieu immortel entend des chants qui le célèbrent. Il est heureux et son plaisir rend beau et bienheureux et quasi immortel ceux qui le célèbrent. La vie normale s'arrêtait pour un temps. Et on se laissait porter vers l'incroyable, l'inattendu. On voulait être surpris et on avait confiance. On savait que toutes ces histoires à dormir debout n'étaient pas de la pure fantaisie, de la fiction, sortie on ne sait pas comment de la tête des poètes. Ces histoires étaient solides. Peut-être qu'elles n'étaient pas vraiment vraies. Ce n'était pas le problème. Elles comptaient. On savait qu'il s'y passait quelque chose de capital. Ces histoires avaient été chantées tellement de fois, c'est donc qu'elles avaient de la valeur. On était rassurés en entendant des noms comme Œdipe, Achille, Hélène, Médée. Chacun de ces noms familiers est le condensé de toute une histoire qu'on avait déjà entendue. Il suffit de les prononcer pour qu'un destin se dessine. On savait où on allait, même si on ne savait pas quelle route on allait prendre. C'était ça le suspense. Il était intense. Je sais comment ces héros vont finir, mais comment avant va se dérouler leur vie. J'attends de le savoir. Œdipe, Oedipus, c'est l'homme aux pieds gonflés. Le nom dit son malheur d'enfant, chassé par ses parents, exposé dans une montagne, accroché à un bâton, avec les pieds percés. Un nom d'enfant trouvé, miraculeusement sauvé. Il va faire le malin, mais il va en baver. Achille, Achilleus, c'est le chagrin à cause de son armée Laos. Il a tant fait pleurer les Grecs pendant la guerre de Troie en se retirant du combat, puis, après son retour en guerre, en mourant, tué par Paris. Hélène, Hélénée, est celle qui prend sur le verbe « Hélène ». Elle a pris tant de vies humaines en déclenchant la guerre contre les Troyens. Quant à Médée, la barbare, Médéia, elle est la femme qui invente, qui pense, la femme qui règne, selon l'essence du verbe « Médomai ». Elle décide. Jason, l'homme qu'elle a décidé d'aimer, n'a qu'à bien se tenir, le pauvre. Lui, il ne règne sur rien du tout. En prononçant ces noms, les poètes, les chanteurs, annonçaient tout un programme. On savait à quoi s'en tenir, et on pouvait d'autant mieux juger la performance du chanteur. Et c'était rassurant si lors d'un festival, un chanteur qu'on ne connaissait pas s'avançait et annonçait bravement qu'il allait chanter de l'Homère. On savait qu'on aurait droit à ce qu'il y a de mieux, si le chanteur savait y faire. Tous ces noms propres, ultra connus, était la promesse que quelque chose de beau, de captivant, allait avoir lieu. Le contenu des mythes était connu, traditionnel. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'attendait pas du nouveau. Le chanteur devait se débrouiller pour entraîner son public, pour le surprendre, même si le mythe qu'il faisait entendre était déjà familier. Il devait d'autant plus innover. S'il se vantait d'être capable de chanter de l'Homère, il fallait qu'il se mette à la hauteur de l'immense poète, et il devait pour cela être créatif. Il ne se contentait pas de répéter, et d'ailleurs, répéter quoi? Il n'y avait pour ses poèmes pas de texte imposé. Homère pouvait être recréé à chaque récital. La présence de la tradition, le caractère solennel, religieux des grandes fêtes, où on racontait les dieux et les héros, n'était pas une entrave pour l'invention, pour la création. Au contraire, la poésie n'était pas figée. Les chanteurs, les musiciens, les danseurs étaient mis au défi. Ils devaient, ici et maintenant, devant leur public du moment, solliciter tout leur génie artistique pour rendre évidente, actuelle, la puissance gigantesque de ces grandes figures du passé. Et faire vibrer leur public. Quand ça marchait, le public était en extase. On disait qu'il était mis hors de lui-même, en transe. Il fallait pouvoir le faire. Et souvent, ce n'était pas un seul chanteur ou une chanteuse, il y en eut, qui transportait ainsi son auditoire. Les mythes pouvaient être chantés par des masses importantes de chanteurs, par des chœurs. C'était plus que courant. Les fêtes mobilisant des chœurs étaient très nombreuses. Fêtes grandioses à Athènes en l'honneur de Dionysos, le dieu du théâtre, pour la représentation de la tragédie, de la comédie, ou pour le dithyrambe, ce grand concert lyrique qui demandait 50 choreutes. Fêtes en l'honneur d'Apollon, d'Athéna, d'Artémis. Des fêtes locales. Cérémonies mobilisant des jeunes gens, des jeunes filles, partout en Grèce. On a calculé qu'un citoyen d'Athènes avait dans sa vie une chance sur deux de participer à un chœur poétique. Il devait alors, pendant un temps, se retirer de son monde habituel et suivre une formation avec des maîtres extrêmement exigeants, du calibre d'Échille, Euripide ou Aristophane. Cela voulait dire qu'il apprenait à exécuter une musique extrêmement complexe, innovante, savante, difficile dans la langue, dans le rythme, la mélodie, dans l'expressivité. En fait, il apprenait un métier. Quand il redevenait simple spectateur, il pouvait immédiatement reconnaître les difficultés techniques que les poètes, le chef de chœur, les choreutes et les acteurs avaient dû affronter. Il était en mesure de juger comme un professionnel. Et il pouvait se rappeler les engueulades qu'il avait subies de la part de grands créateurs pointilleux s'il se trompait dans le rythme d'un vers. L'art d'avant-garde, innovant, était populaire, connu, maîtrisé par une grande partie du public. L'émotion, l'extase collective qui emportait les spectateurs n'était pas du tout incompatible avec la compétence technique. La poésie, sous toutes ses formes, était une langue collective. Et le public fait de connaisseurs était d'autant plus exigeant. Ainsi, on pouvait tenir le public du théâtre en haleine, en montrant une comédie où s'affrontent deux grands poètes, le vieux et solennel Eschyle et Euripide, le Trublion. La lutte entre ces deux monstres sacrés de la tragédie est très technique. Elle est bardée de citations de spectacles anciens, de considérations sur la métrique des vers, sur la grammaire, sur la valeur éducative, politique de la poésie. Et les spectateurs rigolaient. C'est ce qu'a fait Aristophane dans sa comédie « Les grenouilles ». L'affrontement a lieu aux enfers. Euripide vient de mourir et il veut occuper le poste officiel de maître de la tragédie chez les morts, poste qu'Eschyle monopolise depuis trop longtemps. Dans la pièce d'Aristophane, le dieu du théâtre Dionysos arbitre la compétition entre les deux poètes. Le chœur, composé de disciples de Dionysos, lance la bataille en demandant aux adversaires de ne pas avoir peur de se donner de vrais coups, habiles et violents. Le public qui assiste au combat connaît à la perfection l'art poétique. Il pourra juger.
Grande l'affaire, nombreuse la querelle, épaisse la guerre qui arrive, dur exploit de départager. Quand l'un sait se tendre avec violence, quand l'autre sait faire volte et serrer franchement. Ne restez pas assis sur place, car les assauts de la ruse savante sont nombreux et sont divers. Sur tout ce que vous pourrez mettre dans votre querelle, discourez, attaquez, écorchez l'ancien et le nouveau. Aventurez-vous à dire du subtil et du savant.
Et si vous redoutez qu'une incompétence ne vienne interdire aux spectateurs de comprendre les subtilités de vos deux discours, ne tremblez pas du cul, car les choses n'en sont plus là. Ils se sont aguerris, chacun possède son livre et apprend la dextérité. De toute façon, leur naturel est très pénétrant, et maintenant encore, il s'est bien limé. N'ayez peur de rien, allez jusqu'au bout. Ce sont des spectateurs, mais savants.
Ces finesses littéraires et cultivées se passent dans un cadre religieux. On se met sous l'autorité du dieu, en l'occurrence pour le théâtre Dionysos. Le prêtre de Dionysos, qui a la responsabilité du théâtre, assiste à cette comédie. Il est bien en vue, solennellement assis au premier rang, pas loin des acteurs. À un moment sur scène, le dieu Dionysos, le personnage de la pièce, pas le vrai, est effrayé par un monstre des enfers qui surgit devant lui, l'affreuse Empuse. Elle a une jambe de bronze et l'autre de bouse. Dionysos, affolé, se précipite vers son prêtre et lui demande de l'aide.
« Prêtre, veille sur moi, que je puisse aller boire avec toi. »
Tout, même le rapport au dieu, devient affaire de jeu et fait rire. Dans ces fêtes dédiées aux dieux, le rire, l'humour, n'empêchaient pas que le dieu soit présent. Les dieux aussi aiment rire. S'ils le voulaient, le dieu pouvait devenir sensible, presque touchable. Le plaisir pris par tous montrait à l'évidence que le rite du chant, l'offrande des mots, des rythmes, des gestes, avait réussi. Le dieu était satisfait et le faisait savoir par la joie qui se diffusait dans la foule. Mais pour cela, il fallait que le dieu, lui aussi, voyage. Il fallait qu'il vienne, qu'il se mette auprès du chanteur, exactement au moment où il chante.
France Inter, Pierre Judet de Lacombe.
Les dieux, on le sait, rôdaient sur la terre. Mais s'ils n'étaient pas certains qu'ils soient présents là où on les attendait, ils pouvaient être n'importe où, dans l'un de leurs innombrables lieux de culte, ou tranquillement dans l'Olympe. Le chant devait les attirer. Le travail des poètes, des chanteurs, consistait d'abord à les faire venir sur le lieu de la cérémonie, à l'endroit même où on chantait pour lui. La divinité pouvait alors aider les chanteurs, leur donner l'énergie nécessaire. C'est la prière qu'un poète a adressée lors d'une fête en l'honneur de la grande déesse Déméter, déesse du blé, des moissons.
Déméter, imposante, déesse aux cheveux parfaits, je commence mon chant avec elle et sa fille très belle, Perséphone. Sois heureuse, déesse, protège notre ville et dirige mon chant.
Un marché peut être passé avec la divinité. Si elle vient, si elle aide efficacement le chanteur, elle aura droit à un autre jour, à un autre chant qui la célébrera. C'est donnant, donnant. Ainsi, un poète qui s'apprête à chanter Aphrodite, la déesse de l'amour, demande à la déesse de lui venir en aide. Elle peut être sur l'île de Cythère, l'île des amoureux, ou à Chypre, dans sa ville de Salamine. Il faut qu'Aphrodite accepte de venir là, où le poète la chante. Déesse de l'amour, sa présence fera que le public tombera amoureux du chant qui la célèbre. Le poème, grâce à Aphrodite, sera réussi.
Je chanterai la déesse de Cythère qui est née à Chypre. Aux mortels, elle donne des dons de miel. Son visage désiré toujours sourit et porte la fleur du désir. Sois heureuse, déesse, reine de Salamine la bien construite et de Chypre tout entière. Donne-moi un chant qu'on désire et je ferai mémoire de toi encore dans un autre poème.
La déesse du désir sera dans le poème, si elle le veut bien. Elle habitera chacun des mots prononcés et rendra le poème désirable. Puis, en récompense, elle sera encore chantée. Tout le monde y gagne. Rien n'est gratuit. Quel chanteur, quel poète aujourd'hui pourrait se vanter de faire venir réellement sur scène l'idole, la belle qu'il désire et qu'il est en train de célébrer dans son chant? À l'époque, les dieux, les déesses, se manifestaient pendant le chant tout en restant invisibles. Il fallait y croire et imaginer leur présence à partir des mots, des danses, des couleurs, des costumes, des rythmes, des idées mises en son et en gestes. On devait voyager dans son esprit, dans son corps, et se laisser emporter, si le poète savait y faire. Après la fête, il faut revenir chez soi. Le bonheur de se sentir quasi éternel ne peut pas durer éternellement, comme on dit.
Le quotidien, on peut y échapper, mais pas tous les jours.
Avant ce retour à l'ordinaire, vers quoi voyageait-on quand on suivait le chemin captivant, surprenant, qu'était un poème ou une pièce de théâtre? On allait très loin, chez les dieux, chez les héros du passé. Et on savait que ce qu'on allait entendre ou voir n'était pas la vérité. Ou plutôt, on savait que la vérité n'était pas ce que visaient d'abord les poètes. Ils étaient plus malins que ça. Ils avaient compris qu'ils n'auraient pas un accès direct à ce qui se passe dans l'Olympe, quand les dieux discutent entre eux, ou à tous les événements qu'ont traversé les héroïnes et les héros du temps passé.
Jean-Pierre Vernant, helléniste.
La place du mythe dans la religion, elle est fondamentale, parce que quand les Grecs pensent à leur dieu, bien entendu, ces histoires leur viennent à l'esprit. Mais la religion grecque est une religion polythéiste, et elle n'est pas une religion du livre, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun credo, il n'y a aucun dogme. C'est-à-dire que le noyau de la religion n'a pas un caractère intellectuel. La religion ne prétend pas découvrir une vérité qui serait une vérité absolue. Ce n'est pas la religion qui fait ça en Grèce, ce sont les philosophes. Comme la religion ne s'occupe pas de cela, fondamentalement, il va y avoir des professionnels de la vérité qui vont essayer de la dégager. Alors croire au mythe, ça veut dire qu'on en prend et on en laisse. Ce sont des récits qui d'ailleurs sont souvent contradictoires. Il y a plusieurs versions. Ça n'a aucune importance, c'est pas grave, on choisit celle qui vous plaît.
Il y avait bien les muses qui pouvaient les informer, s'ils le demandaient, et si elles acceptaient de bonne grâce de transmettre ce qu'elles savaient. Mais les poètes et leur public savaient très bien qu'ils ne pourront jamais être les témoins directs des scènes qu'on racontait. Les poètes, les auditeurs, les spectateurs dépendent entièrement des mots qui sont mis à leur disposition. Ils n'ont aucun moyen de vérification. Pour eux, les histoires d'Œdipe, Achille, Hélène ou Médée, c'est d'abord du langage, des récits déjà racontés tant de fois. Les humains du temps présent se savaient coupés à jamais des époques héroïques qui faisaient la matière des poèmes et des rites où l'on répétait par des mots, des gestes et des danses les événements du passé. Mais les poètes ne s'en plaignaient pas. Ils ne disposaient que du langage. Ils se sont alors dit « Profitons-en. Devenons les maîtres du langage. Faisons-lui confiance. Après tout, c'est le seul moyen que nous ayons de retrouver le passé ou l'univers des dieux qui ne sera jamais le nôtre. Le langage peut mentir, on le sait trop bien. Un héros comme Ulysse n'a pas arrêté de mentir tout au long de sa vie, jusqu'à ce que sa femme Pénélope, plus maligne que lui, l'oblige à dire la vérité. Tout le monde peut mentir, alors comment séparer le vrai du faux ? Les muses elles-mêmes, qui savent tout, qui connaissent la vérité et la gardent précieusement en elles, ont compris qu'elles s'adressaient à des mortels. Il fallait donc qu'ils entendent un langage qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent apprivoiser. Les mortels, au départ, ne sont pas très futés. Ils ne pensent qu'à leurs besoins, à leur survie. Ils sont comme les bergers, obsédés par la nourriture, seulement des ventres. Excusez-moi les bergers, ce n'est pas moi qui parle. Mais justement, les bergers qui vivent à l'écart, dans un monde sauvage avec leurs troupeaux, sont plus ouverts, moins formatés et plus réceptifs que les gens soi-disant civilisés de la ville pour accueillir une révélation divine. Le poète Hésiode raconte comment, dans les bois de la montagne de l'Hélicon en Grèce, il était d'abord berger, et comment les muses sont venues le chercher pour l'initier à la poésie. Les muses descendent du sommet de la montagne, l'Hélicon, où elles ont baigné leur tendre corps dans l'eau violette d'une source et ont fait danser leurs pieds souples. En bas de la montagne, elles rencontrent une troupe de bergers. Elles commencent par engueuler vertement ces brutes qui gardent leurs moutons.
À Hésiode, les muses ont un jour enseigné un beau poème, alors qu'il faisait brouter ses agneaux sous l'Hélicon très divin. Tout d'abord, les déesses me dirent ces mots solennels, les muses olympiennes, filles de Zeus qui tient l'égide.
Pasteurs aux maisons sauvages, malfaisantes ignominies, rien que des ventres.
Puis, les muses se chargent d'initier à la poésie l'être grossier, qu'est encore Hésiode. Elles font une déclaration surprenante. Elles disent, sans aucune honte, qu'elles ont l'habitude de mentir, qu'elles le font couramment. Les récits qu'elles déposent dans la poitrine des poètes ne sont souvent pas vrais. Ce sont des mensonges, tellement vraisemblables qu'on se laisse facilement avoir. En ce sens, les muses ressemblent à Ulysse, qui n'arrête pas de mentir. Mais de temps en temps, quand elles le veulent, les muses cessent de mentir et disent le vrai.
Nous savons dire en foule des mensonges semblables aux paroles véridiques. Mais nous savons, quand nous le voulons, prononcer haut des vérités.
Ainsi parlèrent les filles du grand Zeus, qui savent assembler les mots.
Il y a donc du faux dans ce que racontent les muses, et elles le revendiquent. Cela veut dire que tous les récits sur les dieux, mais aussi sur les héros, les guerres, le retour d'Ulysse, les histoires d'Œdipe, de ses fils, tout cela peut être bourré de mensonges. Mais ce n'est pas important. En effet, dans tous ces récits, il peut y avoir du vrai. Et c'est cela qui compte. Il faut faire attention, ne pas laisser ces vérités s'échapper.
Mais nous savons, quand nous le voulons, prononcer haut des vérités.
Fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Retranché dans une cale et mes vieux tympans percés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Quand reverrai-je?
Les muses veulent sans doute dire que les détails d'un récit, la couleur de l'armure qu'Agamemnon revêt un matin de guerre, le nombre de bateaux qui sont allés attaquer Troie, les exploits, les amours de tel ou tel, et les mots amers que se sont échangés des dieux en colère dans l'Olympe. Tout cela n'est peut-être pas à prendre à la lettre comme une vérité divine. Ces détails concrets, pittoresques, sont essentiels. Ils captivent l'auditoire. Sans eux, les récits ne seraient pas intéressants. On ne les écouterait pas. Mais au milieu de ces mensonges, une vérité peut surgir, selon le caprice des muses. Il faut être actif, savoir écouter les inventions des muses, en se disant que dans ce langage, qui ressemble tellement à celui des humains, un sens nouveau, envoyé par les dieux, peut apparaître. Le vrai, peut-on supposer, ce n'est pas tel ou tel détail, mais le sens qui peut se dégager de tout ce qui est dit. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur les décisions divines, sur ce qu'est l'histoire humaine, sur le monde? Il faut le deviner et ne pas être un auditeur passif. Une fois qu'elles ont chanté cela, les muses choisissent Hésiode parmi les bergers et lui donnent un rameau de laurier, la plante fétiche d'Apollon. Hésiode est sacré poète. Il peut quitter son troupeau, partir sur les routes et chanter à son tour.
Elles me donnèrent, l'ayant cueilli, le sceptre magnifique d'une branche de laurier en pleine pousse et m'insufflèrent une voix accordée au divin pour que je glorifie ce qui sera et ce qui a été. Elles m'ordonnaient de faire un hymne à la race des bienheureux qui sont pour toujours, et elles, de toujours les chanter en premier et en dernier.
Mais qu'est-ce que ça apporte de faire ce voyage poétique étonnant dans le passé, d'écouter ces poètes vagabonds, Hésiode ou Homère ou d'autres, qui allaient proposer leurs histoires à droite et à gauche? Qu'est-ce qu'on gagnait? La question se pose, car la poésie, ça coûtait cher, et ça pouvait rapporter. Hésiode raconte qu'il a pris la mer une fois, une seule. Il n'aimait pas ça, lui, le poète terrien de la campagne. Pour franchir les quelques mètres d'eau marine, il est vrai, très souvent agité, qui sépare le continent grec de l'île d'Eubée. Il participait à un concours poétique organisé pour les funérailles d'un grand guerrier mort au combat. Il a gagné le premier prix, qui était considérable, un grand trépied de bronze.
Je te dirai les lois de l'onde retentissante, bien que j'ignore tout de la navigation et des navires, car je n'ai jamais vogué sur la mer immense, si ce n'est vers l'Eubée. De Lys, où l'armée achéenne, autrefois, qui avait attendu la fin d'un orage, quitta la sainte Hélade pour Troie aux femmes splendides, me rendant aux joutes d'Amphidamas le farouche, je suis allé à Chalcis. Les fils du guerrier magnanime proposaient des prix nombreux. C'est là que je clame, par un hymne, avoir remporté un trépied à trois anses, que j'ai consacré aux muses héliconiennes, là où elles m'avaient montré le chemin des paroles. Mon expérience des bateaux aux mille chevilles n'est pas allée outre.
Une légende plus tard a dit que lors de cette joute poétique, Hésiode était opposé à Homère et qu'il a gagné. Homère chantait la guerre et Hésiode la paix. Homère est allé errer ensuite, pas content, jusqu'à sa mort. Mais c'est une légende. Quand les poètes étaient déjà sur place, bien implantés dans leur ville et écrivaient des poèmes pour de grandes fêtes urbaines, comme la tragédie ou la comédie, ça coûtait aussi très cher. Il fallait mobiliser des moyens considérables pour monter ces spectacles grandioses, avec acteurs, chœurs, musiciens, costumes bariolés, machines. On taxait les citoyens les plus riches. Et en plus, à Athènes, on payait les spectateurs. La demande en poésie était énorme. À Athènes, les foules se retrouvaient pour écouter de l'Homère, lors de la grande fête en l'honneur d'Athéna, la divinité protectrice de la ville, ou pour assister dans le sanctuaire de Dionysos sur les flancs de l'Acropole aux pièces de théâtre et aux grands concerts lyriques qu'on appelait le dithyramb. Il y avait foule aussi, pour parler politique et prendre des décisions sur la vie de la cité, dans l'assemblée des citoyens ou dans les tribunaux populaires. Mais à ces rassemblements, seuls les citoyens d'Athènes participaient, rien que des hommes. Au théâtre, on pouvait y voir des étrangers et sans doute des femmes. Grandes fêtes poétiques, assemblées politiques et judiciaires, leur rythme réglait la vie collective d'Athènes. Ces grands rassemblements populaires avaient des buts différents. On voit alors tout ce qu'on gagnait à entendre et à réentendre les mythes, tels que les poètes n'arrêtaient pas de les re-raconter, chacun à sa manière. Quand on se réunit dans une assemblée politique ou au tribunal, on ne sait pas au départ ce qu'on va décider. C'est ouvert, ou ça doit l'être. Celui qui parle le mieux, qui a le plus de soutien ou qui apporte le plus d'éléments nouveaux et convaincants, gagne. Les raisons de la victoire ne sont pas toujours très nettes. Et les orateurs peuvent s'injurier copieusement, peuvent calomnier, faire des raisonnements spécieux, mais c'est ouvert. On attend une solution pour le problème qui se pose. Faut-il aller faire la guerre à Lesbos? Et si on gagne, massacrer toute la population mâle, comme le propose un démagogue, va-t-en-guerre? La question s'est posée. Le vote des Athéniens a écarté le massacre quand même. Faut-il prendre telle ou telle mesure? Exiler tel chef qui a démérité? Élire tel ou tel pour une fonction officielle, accepter les comptes qu'il rend à la fin de son mandat, condamner un citoyen qui a fait voter une loi parce que, à l'expérience, cette loi s'est avérée mauvaise. Ou au tribunal, faut-il condamner pour empoisonnement un chef de chœur parce qu'un jeune choreute a pris une boisson pour améliorer sa voix et en est mort? Tout est ouvert. On change les lois. On juge selon l'événement particulier. Tout est mobile. Et pour qu'un bien commun se dégage, on faisait confiance à la parole partagée et à la solidité des institutions. Avec le mythe et ses représentations poétiques, on fait aussi confiance au langage. Mais c'est dans un tout autre sens. Ce n'est pas ouvert, c'est fermé. Il ne s'agit pas de décider, de régler un problème en trouvant par la délibération une solution. Tout a déjà été décidé et réglé en bien ou en mal, dans le passé. On ne peut pas changer le destin de la ville de Troie, d'Œdipe ou d'Achille. Troie est tombée et devait tomber. Œdipe, quelle que soit la manière dont il a fini sa vie chez lui ou en exil, a été criminel en tuant son père et en couchant avec sa mère. Achille a été depuis toujours, depuis qu'on parle de lui, le fils d'une déesse et il est mort jeune sous les murs de Troie. C'est clos. La fin de l'histoire est connue. On ne discute pas. En ce sens, une récitation épique, un spectacle tragique, ne sont pas différents d'un rite où on répète en le mimant avec des moyens spectaculaires un grand événement du passé. Pour la poésie, pour le rite, on se réunit en foule et on se retrouve unis en participant à la même évocation. On revit un événement du passé, en général une grande rupture, une catastrophe qui a pu mettre à mal la communauté et la diviser. Et on est réunis dans la même répétition collective de cette rupture. La communauté ainsi se retrouve, se reforme. Alors qu'une assemblée politique, un procès, vont diviser la cité, il y aura les pour et les contre. Une solution va être trouvée, mais elle risque fort de mettre à mal l'unité de la cité, qui devra ensuite essayer ou bien de restaurer un lien acceptable entre les parties adverses, ou bien imposer la loi d'un groupe contre un autre. L'histoire politique d'Athènes a été très mouvementée. La question avec le mythe ne se pose pas. Les dieux ont tranché. Et c'est irréversible. C'est ce qui fait la valeur de ces histoires. Les questions que se posent les dieux, qui souvent se disputent entre eux, que se posent les héros et les héroïnes, ressemblent aux questions que se posent les citoyens dans leurs tribunaux, dans leurs assemblées politiques. Dans l'épopée, sur la scène théâtrale, les héros, les demi-dieux et les dieux n'arrêtent pas de délibérer. Ils s'empoignent, se querellent. Ils emploient des arguments que l'on entend dans les assemblées politiques et judiciaires sur le bien commun, le droit, la justice, la piété, la violence. Le mythe, en ce sens, n'est pas différent de la vie réelle. Mais la différence énorme, c'est qu'avec le mythe, on sait où tout cela a mené, puisque c'est du passé. Le mythe est une histoire finie, achevée, alors qu'une délibération politique est toujours ouverte et une assemblée peut revenir sur ce qu'elle a voté indéfiniment. Mais attention, c'est là que ça étonne et qu'on voit que le mythe, avec ses destins bien décidés à l'avance, est en réalité infiniment ouvert, créatif et libérateur.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Avant qu'un poète ne commence son histoire, les dieux ont déjà décidé de la fin de son récit. Le poète ne peut rien changer. Les événements incroyables, surprenants qu'il va raconter correspondent à une décision divine déjà prise. Ils vont s'enchaîner pas à pas vers la réalisation nécessaire de cette décision. L'univers que présente le mythe est cohérent, bien organisé comme le cosmos, puisque tout y a une cause selon une décision divine. Dans le mythe, le réel, ce qui fait que telle ou telle chose vous arrive, c'est les dieux. On ne les voit en général pas, mais ce sont eux qui font le monde dans lequel on agit. Mieux vaut prévoir ce qu'ils ont dans la tête. Mais cette rigidité de l'univers racontée par les mythes permet en réalité une extraordinaire liberté d'imagination, d'interprétation et aussi d'action pour les humains. Les dieux agissent, et notamment le plus fort d'entre eux, Zeus le patron. Mais pourquoi il agit comme ça? Et qu'est-ce que ça lui fait à lui d'avoir décidé tel ou tel destin? Est-ce qu'il est indifférent? Et nous? Comment vivre ces décisions divines dont en fait on ignore tout? Comment réagir à ce qu'on ne comprend pas? Tout cela est ouvert. La question est posée par Homère au tout début de son Iliade. Il s'apprête à raconter une effrayante guerre mondiale, la guerre de Troie, guerre dont Zeus, depuis son Olympe, a dirigé les opérations parce qu'il voulait la chute de Troie. Cette guerre qui a rassemblé tous les Grecs contre une cité asiatique non grecque est le mythe d'origine de la Grèce.
Heinz Wissmann, philosophe.
Zeus veut aussi être acteur de son histoire et du coup, il déclenche en lui-même ce qu'exprime si joliment l'expression « mon cœur balance ». Comme si les choses n'étaient pas réglées une fois pour toutes. Et c'est l'espace de ce balancement qui est entièrement rempli par les clameurs de l'Iliade. C'est le balancement qui s'ouvre dans la poitrine de Zeus, si j'ose dire. Tantôt pour les Grecs, tantôt pour les Troyens.
Mais cette guerre, finalement victorieuse pour la Grèce, par la volonté de Zeus, a été le théâtre, l'occasion des événements les plus insensés, les plus aberrants que l'on puisse imaginer. Elle a été un chaos. Non pas seulement par la cruauté des affrontements, par les horreurs de la guerre, qu'Homère n'arrête pas de rappeler, mais parce que l'événement qui a décidé de tout, du tournant définitif qu'a pris la guerre après 9 années d'hésitation, est un non-sens total, un scandale immense. Achille, le demi-dieu, le héros grec le plus fort, le meilleur, qui devait mener les Grecs à la victoire, s'est retourné contre son camp. Il a causé des milliers de morts, non pas troyennes mais grecques. C'est invraisemblable. Or, Homère choisit de parler de cette guerre, non pas en racontant toute l'histoire, depuis les causes du conflit jusqu'à son terme, la mise à sac de la ville de Troie, mais en se concentrant uniquement sur cet épisode dément, la colère d'Achille. Un thème bien connu, déjà raconté avant lui, mais dont il fait le cœur de tout son immense poème. La colère d'Achille a causé le massacre non pas des Troyens mais des Grecs, et, impiété incroyable, leurs cadavres ont été abandonnés aux bêtes.
Cette colère d'Achille, fils de Pélée, déesse, chante là. Je la maudis, Aux Achéens, elle imposa 1000 douleurs. Elle jeta dans l'invisible tant d'âmes solides, de héros, et d'eux fit le butin des chiens et le repas des oiseaux.
Le poème, l'Iliade, commence sur un tableau inouï, insupportable, qui révulse le poète. C'est l'horreur. Il n'y a pas plus ignoble que le tableau de ces corps de héros grecs laissés sans sépulture et dévorés sur le champ de bataille à cause d'Achille. Mais c'est le thème qu'Homère a choisi de chanter. C'est à travers lui qu'il va évoquer le mythe de la guerre de Troie. Il en donne la raison juste après.
La décision de Zeus s'accomplissait.
Ce scandale vient donc de Zeus. On est devant la surprise la plus grande possible. À cause de la colère d'Achille, les Grecs ont connu à Troie un désastre énorme et surtout ont été entraînés dans une impiété monstrueuse. Battus par les Troyens, ils ont dû laisser les corps de leurs héros sur place et pourrir. Or, cette impiété est due au dieu de l'ordre, au dieu qui est censé faire respecter les règles sacrées dans le monde, Zeus. Il n'y a pas plus paradoxal. Le poème d'Homère commence sur un vide, un gap gigantesque entre ce qui a eu lieu, ces morts indignes, ignobles, et la cause de ce scandale, la décision du dieu souverain. Il faudra tout le poème pour combler ce vide, pour comprendre que ce désastre était la condition que Zeus a mise à la victoire finale des Grecs. En l'attendant, l'imagination du poète et de l'auditeur sera à tout moment sollicitée pour essayer de comprendre ce qui se passe. Les dieux autres que Zeus, les humains, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils déploient dans le poème alors toutes les explications possibles, la plupart du temps en vain. Homère nous permet de mesurer l'écart entre ce que les humains peuvent dire, argumenter et vouloir avec leurs moyens traditionnels, avec leurs idéologies, avec le bagage que leur fournit la société, et, face à cela, la dureté de l'événement voulu par le dieu. Ce n'est pas une sagesse que nous offre le mythe tel qu'Homère l'utilise, mais une réflexion sur ce qu'est l'histoire, ce qu'est l'événement dans sa brutalité par rapport à ce que nous pouvons essayer de dire. Avec le mythe, il s'agit toujours d'événements précis situés dans le temps et l'espace. La guerre de Troie, le désastre que connaît la famille d'Œdipe à Thèbes, même quand il s'agit de l'histoire du monde des dieux, c'est toujours situé dans le temps, dans l'espace. Zeus, pour ne pas être mangé par son père, est envoyé dans une grotte en Crète. Héra se réfugie au bord de l'océan. Les dieux ne naissent pas n'importe où. Le moment, le lieu de leur naissance sont l'objet de longs récits. Le mythe a toujours affaire à des individus, à des êtres singuliers, uniques, qui en général vivent dans l'excès, dans un trop-plein de bonheur ou d'infortune. Ce ne sont pas des individus typiques, moyens, normaux. S'ils ont un nom propre, c'est que chacun d'eux est irremplaçable. La philosophie, elle, qui tente de tout expliquer, n'est concerné que par l'homme en général ou le dieu en général, pas par ces exceptions que sont les personnages du mythe. La philosophie n'aime pas trop ces monstres, elle veut des règles. Si le mythe parle, séduit et fait réfléchir, c'est peut-être précisément parce qu'il fait vivre, bouger, mourir des êtres singuliers qui sont aux limites de ce que les humains peuvent vivre. Il dessine le monde, son contour, c'est possible. Enfin, le mythe, avec la poésie, n'est pas le monde. Il est un moment à part, répétitif, avec les cérémonies où on l'entend, où on le mime, mais singulier. Il faut entrer dans le mythe, entrer dans le moment très particulier où il va se déployer, dans un festival, au banquet, au théâtre. On entre dans le mythe et on en sort. La vie normale reprend ensuite le dessus. Entrer dans le mythe est comme un rite de passage. On se retire du monde normal pour faire partie d'une nouvelle communauté, souvent apaisée, où on est fasciné par la voix d'un poète ou par les acteurs et le chant des choreux. On s'immerge pour un temps dans un passé lointain que des artistes, avec leurs techniques extrêmement perfectionnées, essayent de rendre présent. Il n'y a, avec le mythe, pas de culte de ce passé. Il sert de contrepoint au présent, à ses duretés, son caractère imprévisible, incertain. En ce sens, le mythe, quand on s'y plonge, libère. Or, ce n'est pas ce qu'on entend souvent aujourd'hui, sur le recours au passé, sur des formes actuelles de recours au mythe. On entend souvent dire que le passé, le vrai, le passé véritable, authentique, contient déjà tout, que bien vivre, vivre authentiquement, serait de s'imposer et d'imposer aux autres la puissance, les normes de ce passé lointain, passé d'une révélation religieuse, en fait réinventée, considérée comme intangible et absolue, passé d'une race qui aurait été pure autrefois, passé d'une nation qui aurait tendance à perdre son authenticité en se métissant. Ces idolâtries du passé, ces fondamentalismes, qu'ils soient religieux, politiques ou autres, ne sont pas seulement nostalgiques. Pour imposer leur vision en fait factice du passé, pour transformer ce passé fictif en mythe salvateur, ces courants ont su s'adapter aux ressources techniques les plus perfectionnées du monde contemporain. Pour cette raison, leur emprise est puissante. En eux se manifeste le contraire de la liberté. Les mythes, quand on les prend chez eux, par exemple en Grèce ancienne, faisaient tout le contraire. Ils ne prétendaient pas dire la vérité sur le monde une fois pour toutes. Ils proposaient une expérience de mise à distance, avec beaucoup d'humour, de liberté inventive, pour que les puissances du monde n'écrasent pas. Ils faisaient cheminer librement.
France Inter, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Maria Pasquet. La prise de son a été réalisée par Tilaï Ravu. Les archives sonores ont été rassemblées par Claire Tesser. Le choix musical est de Thierry Dupin. Et voilà, nous avons fini la saison. À la rentrée, les dieux vont encore rôder sur Inter, sous une forme un peu différente. Bon été avec Inter.